Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 78. Divergence numérique, c'est votre émission sur les logiciels libres. Ce soir en compagnie d'Anaël Navarro. Bonsoir.
Bonsoir Pascal, comment ça va ?
Bien, bien. On était sur la plage cet après-midi en train de faire des tests pour justement l'événement de ce dimanche Didier Pouscaref. Eh oui.
Donc aujourd'hui dans Divergence numérique, on va avoir quelques invités, c'est vrai que
on n'a pas Gilou qui geek comme un sourd sur sa moto, en tout cas j'espère pas. Le meilleur endroit c'est le sofa. Comme il nous dit aussi sur le chat.
Non, moi je dis la moto c'est aussi un très très bon endroit.
Non, faut pas geeker quand on est en train de conduire, n'est-ce pas, mon petit Gilou? Alors dans cette divergence numérique, qu'est-ce qu'on aura au programme?
Eh ben alors aujourd'hui en divergence numérique, ben ça sera, on va parler un peu de l'Adopi, on va parler aussi des prémices des RMLL 2010 à Bordeaux. C'est quand même un événement important.
Rencontre mondiale du logiciel libre.
Et oui, les rencontres mondiales. De toute façon, nous serons présents, mais nous allons commencer à parler un peu du sujet.
Et puis on recevra aussi les organisateurs de l'install party de ce samedi 12 juin en la personne de Mathieu Beck et donc aussi des organisateurs de Montpellier Libre, évidemment.
Et ben voilà. Mais avant tout, nous allons commencer par les nouvelles du front.
Incontournable.
Les nouvelles du front.
Adopi. Et oui, c'est notre premier sujet pour démuter l'émission. Rien de mieux pour nous mettre en colère. Mais d'un côté, Adopi, les premiers mails sont remboursés a priori jusqu'à septembre. Des arbitrages budgétaires de la CNIL. Donc voilà, selon la lettre édition multimédia à paraître lundi prochain, un dernier couac pourrait retarder de 2 autres mois le lancement des premiers mails d'avertissement pour l'Adopi. Donc pour autoriser TMG, donc je vous rappelle que c'est une société qui a été choisie pour s'occuper du domaine de l'Adopi. Nous avons parlé d'ailleurs de Thierry Lhermitte aussi, l'acteur qui accompagne donc cette société. Donc la TMG est autorisée à surveiller et à flasher les internautes sur les réseaux peer-to-peer. L'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle Alpha, la société des auteurs, compositeurs et des éditeurs de musique, la SACEM, la société civile des producteurs phonographiques, la SCPP, la société civile des producteurs de phonogrammes en France, SPPF, avait déposé un dossier à la CNIL mi-avril. Sans ce feu vert, pas de trac en France par la société dans laquelle l'acteur Thierry Lhermitte a énormément investi.
Normalement, la commission doit rendre son avis autour du 21 juin, en pleine fête de la musique. Voilà qui tombe bien. Le 1er juin dernier, lors d'une réunion tenue à huis clos, le groupe UNP a demandé au gouvernement de faire en sorte que le dispositif de la riposte graduée soit bouclé avant les vacances parlementaires d'été, évidemment.
Ben oui, mais selon les éditions multimédia encore, la commission pourrait demander 2 mois d'instruction supplémentaire pour obtenir un complément d'information.
Pourquoi ? L'enjeu est surtout stratégique et le calendrier permet de contextualiser la situation. C'est en effet avant l'été que les arbitrages budgétaires touchant au budget de la CNIL seront décidés par Matignon. Du coup, le président de la CNIL pourrait être tenté d'établir un rapport de force avec l'État, un budget annuel à la hausse contre un avis favorable pour débloquer l'Adopi. L'enjeu est éminemment politique et d'autant plus sensible qu'il touche à la collecte et à l'identification individuelle de l'adresse IP considérée par la CNIL comme une donnée à caractère personnel.
Donc du coup, du côté de la rue Texel et des ayants droit, on n'inclut pas cette hypothèse. Une porte-parole le confirme à Édition Multimédia. Au lieu d'envoyer des emails au fil de l'eau à partir de juillet prochain et durant tout l'été où l'activité de téléchargement sur Internet est moindre, il pourrait être préférable de conserver les emails durant une durée de 2 mois, pour au moins que ce que nous permet la loi, bien sûr, lorsque ce n'est pas 6 mois en cas d'identification. Puis, en septembre, l'Adopi enverra une première salve. L'avantage serait aussi de faire coïncider les premiers avertissements avec le lancement de la carte Musique Jeune, qui doit justement intervenir à la rentrée et laisser la fête de la musique éloignée des matraques de la rue Texel. Donc on remercie Marc Ries qui a rédigé cet article donc pour PC Impact. Mais c'est toujours aussi affligeant, ces histoires d'Adopi.
Toujours,
hein.
Toujours. Et évidemment, c'est toujours avant l'été qu'il se passe beaucoup de choses pour que tu pars en vacances tranquille. Et puis finalement, tu reviens, tu lis tous tes messages, tu prends ton courrier postal classique et tu t'aperçois que le gaz a augmenté, l'électricité a augmenté, que j'ai reçu du mail de l'Adopi. Tout va bien, bonne rentrée pour septembre.
Oui, c'est ça. À mon avis, septembre risque d'être un gros coup de matraque cette année, pour les personnes qui vont tomber sous le joug de l'Adopi, pour ces malchanceux. Et d'ailleurs, nous le répétons, nous sommes bien sûr à la Divergence Numérique, tout à fait à l'écoute de vos messages et à la veille. Si jamais vous voulez nous contacter et nous envoyer ces premiers messages.
Si vous recevez. Votre mail de l'Adopi, n'hésitez pas à nous l'envoyer à contact@divergence-fm.org et on se fera un plaisir de lire cette fameuse missive.
Oui, ça serait très 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 intéressant. Et moi je propose un petit truc très intéressant, un petit passage musical. Là, ça serait
alors justement,
bien.
On n'en a pas parlé au début, notre fil rouge musical, ce sera Emerald Park, ça c'est le groupe, un groupe suédois, avec leur album for Tomorrow, édition 2010, en licence Creative Commons by NC-ND 3.0. Ils sont sous le label AF Music, en style pop indie, vous allez découvrir. On en parlera un petit peu plus après. Le premier morceau qu'on va s'écouter, c'est The Common Field, donc en licence Creative Commons by NC-ND 3.0. It's a 24/7 song, and a night that's very long, but it's not that big a deal, it's only how I feel. Am I coming on too strong? Just we The Common Field par Emerald Park, extrait de l'album For Tomorrow, édition 2010, un album qui était paru donc au tout début de l'année sous licence Creative Commons by NC Indie 3.0. Ils sont sous le label AF Music. Vous pouvez aller sur leur site www.emeraldmusic.net et également retrouver ces liens sur notre article de Divergence Numérique sur divergence-fm.org. Et puis on poursuit cette émission donc avec les nouvelles du front.
Et dans les nouvelles du front, principalement, on va se mettre au goût de nos voisins un peu plus au sud-ouest, c'est-à-dire grâce aux Espagnols, nous apprenons que le peer-to-peer s'apparente au prêt de livres, du moins selon la justice espagnole. Les décisions de justice favorables aux internautes se suivent et se ressemblent en Espagne, soutenues par une jurisprudence très claire depuis 2006. Un tribunal vient de rejeter les accusations portées à l'encontre de 4 Espagnols, tout administrateurs d'un même site web proposant des liens BitTorrent. Donc nous rappelons, BitTorrent, c'est une technologie qui permet de partager des données. Donc chacun va proposer un fichier à télécharger et va avoir un petit lien qui permettra donc de partager ce fichier de manière de masse, donc la technologie du peer-to-peer. Donc voilà ce qu'est la technologie BitTorrent. Donc voilà ce qui va sans aucun doute susciter l'ire des États-Unis, en froid déjà avec l'Espagne pour sa trop grande permissivité en matière de partage de fichiers et de droits d'auteur. En effet, la justice espagnole a eu encore une fois refusé de condamner 4 internautes accusés de pirater des contenus protégés par le droit d'auteur via les réseaux peer-to-peer, appliquant une jurisprudence constante depuis 2006. Les 3 juges ont à nouveau considéré que le partage de fichiers sans but lucratif n'est pas illégal. Donc c'est vrai qu'en l'espèce, pourtant, les choses auraient pu se compliquer très nettement, car il n'était pas question ici de 4 simples internautes occupés à récupérer le dernier blockbuster hollywoodien, mais bien de 4 administrateurs de sites web, donc je cite le site qui est cvcdgo.com, proposant des liens BitTorrent pour télécharger des contenus aussi divers que variés, des films, des séries télé, musique, jeux vidéo et j'en passe. Mais il y a un détail près, cependant, les fichiers recensés n'étaient pas hébergés par les serveurs du site. Les revenus publicitaires n'allaient pas dans la poche des 4 internautes. Pourtant, comme le rappelle Torrent Freak, cela n'a pas empêché les ayants droit, dont Columbia Tristar et la société de gestion de droits d'auteur locale Agenda, de monter en 2005 une vaste opération à travers tout le pays pour retrouver les 4 internautes et mettre un terme aux activités du site dont les serveurs étaient localisés à San Diego, aux USA. Donc soutenus par les autorités et la police, les 4 Espagnols âgés entre 27 et 37 ans ont finalement été arrêtés. Alors que les ayants droit espéraient sans doute une procédure rapide pour une condamnation exemplaire, ils ont dû composer avec une justice mu par son propre rythme. Au final, l'affaire a traîné en longueur avec un dénouement heureux pour les 4 suspects. En effet, les 3 juges chargés du dossier ont conclu qu'il n'y avait pas eu d'infraction, allant jusqu'à dresser un parallèle entre la nature du peer-to-peer et le classique prêt de livres entre amis. Donc, comme de nombreuses affaires du même acabit, le tribunal a estimé que dans la mesure où aucun fichier incriminé n'était hébergé par les serveurs des responsables, il était difficile de tenir les 4 administrateurs responsables. De plus, le tribunal a constaté que les autres accusés n'avaient pas profité du piratage de fichiers sous droit d'auteur pour s'enrichir d'une façon ou d'une autre. Dès lors, la présence de contenu publicitaire sur le site n'était pas problématique. Le verdict qui a été rendu par les juges Ocaritz, Guertes et Campillo indique par ailleurs qu'à d'autres époques, il y avait des pratiques comme le prêt ou la vente de livres, de films ou encore de musique. La différence réside désormais principalement dans le support utilisé, bien sûr. Auparavant, il était question de papier et aujourd'hui, tout est dans un format numérique, format qui permet un échange beaucoup plus rapide, de meilleure qualité et avec une dimension internationale à travers l'Internet. Cette affaire vient se rajouter à une longue liste de décisions précédentes en faveur d'un usage non marchand des réseaux peer-to-peer. Ces dernières années, les internautes espagnols ont pu constater la grande protection qu'offrait leur justice. Citons ainsi le jugement d'un magistrat espagnol légalisant via le partage peer-to-peer l'opposition des opérateurs et de certaines personnalités politiques espagnoles et européennes au principe de riposte graduée, sans parler du projet gouvernemental de faire l'accès à Internet en haut débit un droit. Donc je remercie avant tout Julien, elle, qui a écrit cet article pour le site numerama.com, parce que c'est vrai que c'est, encore une fois, on a un bel exemple que toute la diversité est présente en Europe.
Justement, c'est un échange non marchand, comme il était cité dans l'article, et c'est là où toute la différence est... Tout se fait la différence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un but commercial, donc je te prête un livre, je te prête un morceau de musique, même si c'est moi qui l'écris, même si c'est un voisin qui me l'a passé, je te le reprête, voilà. Etc. Et ça s'échange.
Donc c'est vrai que c'est une présentation quand même très naturelle, très humaine, qui est faite par la justice espagnole.
Tout à fait.
Donc voilà, ben encore merci beaucoup à nos amis espagnols de défendre aussi une certaine nature dans le droit encore aujourd'hui. Et on espère que cet exemple va assouplir les lois dans les autres pays de l'Union européenne.
Il fera des petits dans les autres pays. On va poursuivre, on va refermer ces nouvelles du front avec de la nouvelle logicielle, une sortie de la version 0.6 de Grisby, un logiciel de comptabilité, comme son nom l'indique. Grisby est un logiciel de comptabilité personnelle sous licence GPL. C'est un programme écrit par des Français qui respecte parfaitement l'esprit de la comptabilité à la française. Développé dans un esprit de simplicité, il n'en supporte pas moins des fonctionnalités avancées. Grisby est multi-compte, multi-devise et multi-utilisateur. Il gère les tiers, les catégories de recettes et de dépenses, mais aussi les imputations budgétaires et les exercices. En tout cas, un programme bien sympathique, ce que j'ai pu voir, un petit peu essayer, et qui va bien vous faciliter la vie pour de la comptabilité personnelle. Alors cette version 0.6 est sortie récemment et apporte les nouveautés suivantes, un chiffrement de fichiers, un nouveau système d'impression, une interface utilisateur améliorée, l'import des fichiers au format CSV et GNU Cache, l'astuce du jour, super, travail conséquent pour améliorer l'internationalisation, un système de plugin ou de greffon et bien d'autres encore. N'hésitez pas à aller sur le site http://2x, comme diraient nos Québécois, grisby.org.
Mais c'est bien de voir des logiciels comme ça qui avancent de plus en plus. Et d'ailleurs, il faut le rappeler pour les internautes qui nous écoutent, les logiciels du libre, c'est pas synonyme aussi de logiciel léger. Ça peut être du logiciel professionnel, un logiciel qui est bien construit parce qu'il a été enrichi par des professionnels, par des gens qui sont à l'écoute de ces professionnels. Et forcément, le libre apporte une grande spontanéité dans le développement logiciel. Donc, vous pouvez trouver de nouvelles astuces. C'est quelque chose aussi qui peut faire avancer le marché, toujours avec le principe de coopétition, puisque l'objectif va être de regarder les fonctionnalités qui existent afin d'améliorer encore les logiciels existants.
Alors avant de passer donc à une interview de Jean Perratou sur les rencontres mondiales du logiciel libre, on vous propose une petite pause musicale avec notre fil rouge musical de cette semaine, qui est en fait le groupe Emerald Park, un groupe suédois formé à Malmö, donc en Suède, en 2001. Après un premier album, Sadness Within, produit par Stellan Colt, plusieurs shows, etc. Et donc vous pouvez retrouver tout ça sur emeraldmusic.net et on va écouter leur album, un extrait de leur album For Tomorrow, édition 2010, avec le titre Alors je sais pas si je le prononce à la suédoise, mais à mon avis non. Et c'est sous licence Creative Commons, évidemment, by La Paternité, NC non commercial, ND non dérivé 3.0. En tout cas, vous pouvez en faire des dérivés si vous leur demandez la permission. Et c'est tout de suite sur Divergence Numérique. c'était Hume par Emerald Park, extrait de l'album For Tomorrow, donc l'édition 2010, et le tout évidemment en licence Creative Commons by NC Andy 3.0, que l'on peut retrouver sur dogmazic.net, Emerald-Park. Les liens, vous les avez sur l'article de Divergence Numérique, divergence-fm.org, rubrique Société, Divergence Numérique, ou sur les articles du jour. Merci à Gilou pour ton excellent travail de rédaction et de gestionnaire de site.
Oui, bravo. Et je pense qu'il est, il est intéressant que l'on se penche aussi sur un groupe qui fait donc de la musique sur licence ouverte, comme Emerald Park, qui donc finalement a été formé en 2001 et a fait finalement des concerts en tant que comme annonceur, comme ouverture de concerts pour des première concerts partie. De Maria McKee, de Luna, de Clem Snide, c'est quand même assez intéressant. Ils ont sorti un gros album qui est Sadness Within, qu'ils ont sorti un single, My Star, donc, qui a été produit par Carl Gamberg, et donc qui a été finalement rapidement aussi, qui a été rapidement sorti après les différents concerts. Donc, on sait maintenant que le groupe est en train de travailler sur un deuxième album en version longue, donc en collaboration avec le producteur Olaf Rick, tu sais, de Moon Babies. Et finalement, ce qui est assez impressionnant, c'est que là, certains des membres du groupe sont partis, sont changés, donc, et finalement, la musique va prendre un petit changement, à mon avis, la musique du groupe, mais tout va quand même. Ils vont quand même garder une certaine substance, une substance solide qu'ils ont eue à leur création et qui a fait la renommée de Emerald Park. Donc c'est vrai que toutes les adresses sont disponibles sur notre site. On vous invite à aller écouter donc sur www.emeraldmusic.net. Donc tapez Emerald Park sur internet, c'est de la musique sous licence ouverte. Ça s'écoute, ça se partage, ça se télécharge et on en profite.
Et oui, on en profite. Alors maintenant, on va faire un petit avant-goût de ce qui va nous attendre début juillet, ce qui va vous attendre sur l'antenne de Divergence FM à travers Radio RMLL, RMLL pour Rencontre Mondiale du Logiciel Libre, dont c'est la 11e édition et donc le 10e anniversaire. Ils reviennent sur Bordeaux pour la 4e fois et on va entendre là maintenant une interview de Jean Peratou, qui fait partie du comité d'organisation de ces 11e rencontres du mondial du logiciel libre, donc à Bordeaux. Et c'était une interview faite par nos confrères de Radio Girol.
La culture libre.
Et bonjour Jean Peratou, donc, qui fait partie de l'organisation RMLL.
Pour Rencontre Mondiale du Logiciel Libre.
Vous faites partie de la bulle et de Sidéral, et donc vous êtes venu aujourd'hui à Radio Girol pour nous parler des RMLL.
Voilà, des RMLL 2010, de la 11e édition qui a donc lieu à Bordeaux et dans les environs au mois de juillet.
Alors quand on dit RMLL, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ces rencontres mondiales du logiciel libre?
Alors les RMLL, c'est un peu long et compliqué à expliquer, donc on va simplifier, mais disons que aujourd'hui ce sont 4 manifestations qui ont lieu en même temps. D'une part, c'était l'origine du projet, une rencontre de développeurs. Donc, le principe est que on identifie des chefs de projet, des gens qui nous paraît intéressant de faire travailler ensemble un peu partout dans le monde. On les réunit pendant quelques jours avec les moyens de travailler ensemble et on regarde ce qu'il en sort. Alors, on n'y comprend pas grand-chose, c'est en anglais, mais c'est là que se fait le logiciel libre et ça a déjà donné des résultats intéressants. Alors, c'est pas du tout grand public, hein. Donc ça, c'est une partie de la manifestation. Une autre, c'est un rendez-vous qui est devenu au fil des années incontournable, c'est le village des associations, donc rendez-vous de toutes les associations, à la fois les clubs d'utilisateurs de logiciels libres dans telle ou telle région, mais aussi les associations autour d'un projet de logiciel ou autour d'une communauté quelconque. Enfin, il y a une partie très importante maintenant qui est le contact avec le grand public, donc un endroit, notamment au travers du village des associations, mais aussi au travers de conférences, ateliers, etc., où les gens peuvent rencontrer des utilisateurs, se faire expliquer, suivre des ateliers. Et puis enfin, et ça c'est pas quelque chose qu'on avait prévu, ça s'est fait au fil des années, c'est devenu maintenant un vrai lieu de formation, formation personnelle, formation professionnelle aussi. Par exemple, on a de plus en plus de gens qui viennent assister aux rencontres mondiales dans le cadre de la formation continue financée par leur entreprise. Et ça en fait, ça s'est fait au fil des années du fait de la qualité des thèmes. Alors il y en a plusieurs, c'est vrai côté éducation, c'est vrai côté par exemple sécurité informatique. Voilà, donc quatre manifestations, mais tout ça évidemment restant cohérent sur le même lieu et défendant les mêmes valeurs, quoi.
D'accord. Notamment, enfin, je rebondis sur ce que tu disais, où je suis allé à celle de Mont-de-Marsan et beaucoup de professionnels de l'internet venaient assister aux conférences données entre autres par Mozilla sur le futur d'internet et où c'était vraiment très intéressant. Pourrais-tu nous donner maintenant un historique de ces rencontres mondiales du logiciel libre?
Alors l'idée est partie d'ici, est partie de Bordeaux, de l'équipe de la Bulle de l'époque, mais il en reste quelques-uns là, des canaux historiques entre guillemets. Donc ça a démarré en 99 avec notamment comme instigateurs Pierre Jarillon et Jean-Paul Chiron.
Qui sont toujours là.
Qui sont toujours là et qui sont toujours dans l'équipe et prêts à démarrer. Donc la première édition a eu lieu en juillet 2000 à Bordeaux et puis elle a eu lieu quelques années à Bordeaux, à quatre reprises, pas à la suite. Mais bon, rapidement, mais d'une part l'équipe s'est épuisée parce que c'est quand même une grosse manifestation, hein, c'est un peu lourd. Et puis surtout, on avait très envie de faire tourner le barnum pour regarder cette expression et donc de faire en sorte que les rencontres se déplacent et que leur impact local, qui est certainement l'un des aspects les plus intéressants, profite à tous les gens qui avaient envie de le faire. Donc ça a marché et ça s'est promené à Metz, à Dijon, à Amiens, à Vendeuvre-les-Nancy pour pendant les deux dernières éditions. En 2008, c'était à Mont-de-Marsan et en 2009 à Nantes. Voilà, donc si je prends le cas de Mont-de-Marsan, les effets locaux, ils ont vraiment été très importants. Il y en aurait trop à citer, mais pour prendre deux exemples, il s'est créé un pôle de compétences autour de Mont-de-Marsan qui s'appelle Akinetic, avec des tas de projets intéressants, allez voir, quoi, akinetic.org. Par ailleurs, que ce soit le conseil général au niveau du département des Landes ou la ville de Mont-de-Marsan, il y a des migrations vers le logiciel et les ressources libres en cours. Voilà, et tout ça, ce serait peut-être fait quand même, mais il est clair que l'organisation des rencontres mondiales localement a eu beaucoup, beaucoup d'écho et que ça a participé à cet aspect-là, quoi, voilà. Donc, pour historique, peut-être pas plus que ça, hein, ça suffit, quoi. La manifestation, c'est un peu une auberge espagnole, les gens en font ce qu'ils en veulent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fil des manifestations, ça se déplace, les équipes donc changent, hein, puisque c'est une, en général plusieurs, mais en tout cas au moins une association locale qui en est organisatrice. Mais d'une année à l'autre, le fil reste continu, puisque, par exemple, si je prends l'organisation de 2010 à Bordeaux, dans l'équipe d'organisation, on a des gens des cinq équipes d'organisation passées, sans doute un peu plus, et les Strasbourgeois, puisqu'en 2011, ce sera à Strasbourg, sont aussi intégrés à l'équipe. Donc, il y a un vrai continuum, quoi. Ce sont des manifestations distinctes, mais avec un vrai esprit commun et une vraie continuité entre elles.
Alors, pour cette édition 2010, ça se passera donc du côté de Bordeaux, Talence, Pessac et Bordeaux le week-end. Peux-tu nous en dire davantage ?
Alors, peut-être en préalable, pourquoi Bordeaux, quoi ? Parce que à Bordeaux, ça a déjà eu lieu quatre fois. Il y a deux ans, c'était à Mont-de-Marsan, en Aquitaine, à côté. Donc, ça paraissait un peu curieux. Pourquoi est-ce qu'on est allé recandidater ? Alors, il y a des raisons un peu internes. C'est-à-dire que dans les associations... je pense en particulier à la Bulle et à Girol qui sont sur Bordeaux, il y a plein de gens qui n'étaient pas là en 2004. Et le point de départ, c'est vraiment ça, c'est un certain nombre de bénévoles qui ont dit « Ouais, vous parlez de rencontres mondiales sans arrêt, et puis nous, on est arrivés juste après, et on voudrait les refaire. » Et c'est vraiment eux qui ont lancé ça il y a un peu plus de deux ans, l'idée de reprendre, de recandidater. L'autre idée aussi, c'est que ça fait 10 ans, quoi. En bon informaticien, on a commencé à l'année 2000, ça commence à zéro. L'idée de les ramener à Bordeaux, c'était aussi d'avoir l'ambition de changer un peu. C'est-à-dire que le logiciel libre, il y a plus de 10 ans, la situation n'était pas du tout celle qu'elle est maintenant. Donc il y a 10 ans, c'était très important d'avoir des militants qui allaient porter la bonne parole et faire du pouvoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, le logiciel libre, c'est banal. Il y en a partout, c'est ordinaire. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de négocier cette évolution et de faire en sorte que les rencontres ne soient plus un lieu de rencontre de militants, mais bien un lieu de formation, de rencontre aussi, évidemment, mais avec des gens qui sont utilisateurs de logiciels libres pour des raisons qui ne sont pas celles du militant. Donc, on va prendre un exemple concret, c'est plus facile, mais par exemple, dans un espace public numérique, style, je sais pas moi, point cible, une école ou un machin comme ça, il y a quelques années, si tout ça tournait sous le libre, c'est parce qu'il y avait un des animateurs ou le directeur ou je sais pas qui était militant et qui voulait absolument ça. Aujourd'hui, c'est les gens dont c'est le travail et qui sont rémunérés pour ça et qui, au quotidien, font le choix des logiciels libres parce que, tout simplement, c'est mieux, c'est plus intéressant, ça se défend à la fois du point de vue économique, technique, éthique, politique, enfin voilà. Donc pour changer cette le fil conducteur de la manifestation, notre idée, c'est, pendant 10 ans, on a fait une manifestation qui durait 5 jours, qui était quelque chose de relativement ponctuel. L'ambition pour Bordeaux, je sais pas si on va y arriver, mais c'est quand même plutôt bien parti, c'est que, en fait, la manifestation ne soit qu'un moment au sein d'un continuum. Et donc, en clair, pendant l'année avant les rencontres mondiales, tous les mois, il y a eu plein de choses qui ont été organisées chez vous à Girol, dans les 5 départements d'Aquitaine et même un peu au-delà. Et puis, à un moment donné, il va y avoir les rencontres mondiales, mais juste après, ça va continuer. Et ça va continuer avec les acteurs ordinaires. Ce n'est pas les militants du libre qui vont recevoir les gamins dans les écoles, accueillir les gens. Voilà, il faut que tout ça se banalise. Donc, notre ambition, c'est de dire, les rencontres en 2010, elles vont donner un nouveau cadre. On a monté le curseur, clairement, sur des tas de points de vue, aussi bien au niveau de l'organisation, du public accueilli et tout ça. Et donc, maintenant, bonne chance à Strasbourg, mais on est prêt à leur donner un coup de main. Mais pour les 10 années prochaines, il faut que ça soit au moins ça. Voilà.
Quand est-ce que tout ça va se passer ?
Donc, revenons à des choses un peu plus concrètes, tu as tout à fait raison. Donc, ça a lieu du mardi 6 juillet au dimanche 11 juillet, donc sur 6 jours, un jour de plus que d'habitude. La justification de ça, c'est qu'en fait, on voulait que le week-end, qui est la période la plus intéressante pour toucher les gens qui ne sont pas des militants, que cette période soit étendue. Par ailleurs, pendant la semaine, ça se tient dans des lieux classiques, donc c'est sur le campus universitaire. Il y a plusieurs lieux, on en reparlera si vous voulez. Par contre, le week-end, comme on s'est rendu compte les années précédentes qu'il nous était difficile de faire venir le public dans un lieu universitaire, pour des raisons diverses, peu importe, en tout cas on constate que les gens viennent peu, donc on a dit très bien, le public est en ville, allons en ville. Et donc on déplace tout le village associatif, on va aller s'installer sans doute sur les quais, enfin c'est en cours de négociation avec la mairie de Bordeaux, parce que c'est quand même un gros machin au niveau logistique, vous imaginez bien. Et donc on va passer 2 jours en ville. Donc du mardi 6 au vendredi 9, c'est sur plusieurs lieux, sur Pessac et sur Talence, les 2 lieux principaux étant l'Enserbe, lieu un peu historique, c'est donc une école d'ingénieurs qui nous a accueillis dès 2000, et puis la faculté de sciences. Mais il y aura également un chapiteau qui va accueillir des spectacles, enfin il y a un côté culturel très important cette année, et puis il y a aussi un thème entreprise, qui est une nouveauté cette année, du moins dans la forme qui lui est donnée, parce qu'il y avait déjà des thèmes entreprises les années précédentes, mais là il a vraiment pris de l'ampleur, et qui va se trouver à quelques centaines de mètres dans une école de chimie là, qui s'appelle ENSCBP. Mais bon, voilà, allez sur le site rmll.info, vous allez vous retrouver sur la présentation, l'édition de cette année.
Justement, tu as commencé à détailler un peu les thèmes. Il y a cette année, il me semble, 6 thèmes.
Alors, il y en a même 7. Donc, voilà. En fait, il y a d'abord une séparation entre 2 grandes parties. Une partie qui sont les thèmes techniques, on va dire. Je ne vous fais pas le détail, ça serait trop long, mais donc sur le noyau, l'embarqué, le matériel, enfin voilà, allez voir le site. Le programme n'est pas complètement finalisé, mais il est très très largement en ligne déjà. Et puis ensuite, sur les thèmes non techniques, on va dire, on a un certain nombre de thèmes, donc sciences et éducation qu'on a regroupés, qui sont
un très gros thème comme d'habitude, pardon pour le micro déplacé. Ensuite, deux thèmes un peu particuliers parce que cette année, ils sont aussi en fil conducteur, ce sont des thèmes transversaux à toute la manifestation, qui sont d'une part le développement durable et d'autre part l'accessibilité. Donc, en tant que thèmes transversaux, on va les retrouver évidemment dans tous les autres, qu'ils soient techniques ou non techniques, mais ils feront aussi l'objet d'un thème spécifique accessibilité, d'un thème dans lequel on a regroupé développement durable et économie sociale et solidaire. Ensuite, il y a un thème culture qui cette année a pris beaucoup d'ampleur puisque il y a également prévu en dehors des conférences, tables rondes, ateliers qu'on a l'habitude de voir aux rencontres mondiales, beaucoup d'interventions d'artistes, donc de la musique, du théâtre, des arts graphiques, de la photo, j'en oublie, de la danse, qu'est-ce que j'oublie ? Donc le thème entreprise dont je vous ai déjà parlé, qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur cette année, un thème pour les collectivités territoriales et les administrations. Et je pense que j'ai fait le tour là cette fois. Donc donc 7 thèmes, on va dire, non techniques, et puis 6 côté technique dont le programme est déjà en ligne.
D'accord, donc si on fait un récapitulatif, les rencontres mondiales du logiciel libre du 6 au 11 juillet sur Talence, Pessac et le week-end à Bordeaux, 7 thèmes majeurs. Et voilà, et en fait une belle fiesta du livre.
Voilà, et puis des rendez-vous classiques maintenant, le repas du livre qui aura lieu à Pessac le jeudi soir, et puis une foule de propositions autour d'activités artistiques qui n'est pas complètement finalisée, mais qui va vraiment valoir le déplacement. Quoi.
D'accord, et le site internet, tu pourrais le rappeler.
Donc rmll.info. Et quand vous arrivez là, vous tombez sur l'édition de l'année en cours, donc en l'occurrence 2010.rmll.info. Et si ça vous amuse d'aller voir ce qui s'est passé les années précédentes, vous tapez 2009.rmll.info, vous arrivez à Nantes, 2008.rmll.info à Mont-de-Marsan, et etc.
D'accord, je pense que nous avons fait le tour de la question. Merci Jean.
Merci
Jean.
Beaucoup, merci à Girol pour les multiples pré-événements que vous nous avez aidés à organiser.
Et oui, c'était l'interview de Jean Perratou, qui fait partie de la bulle du comité d'organisation sur les 11e rencontres mondiales du logiciel libre à 2010, qui se passeront donc, vous l'aurez compris, sur le campus de la fac de Bordeaux 1, plus précisément à l'ENSERB Matmeca, ainsi que dans le hall du premier cycle de l'université, du côté de Talence, et aussi du côté de l'ENCPB, l'école de chimie. Ce sera aussi dans le hall. Il y aura des conférences. En tout cas, rmll.info pour tout le programme, tous les détails. Sans oublier évidemment le soir une très grosse programmation évidemment avec nos amis de Musique Libre, Dogmazic, puisque c'est leur fief musical. Et donc avec des concerts à partir du mardi soir, également aussi le jeudi soir après le repas du libre. C'est en train de s'organiser, c'est la folie. Et également le samedi soir sur les quais, plus exactement vers les bassins à flot de Bordeaux, au garage moderne, où se terminera donc par un concert, c'est cette partie culturelle de ces rencontres mondiales du logiciel libre. D'ailleurs, musique que l'on va écouter pour faire une petite virgule, toujours avec nos Suédois Emerald Park, extrait de leur album For Tomorrow, édition 2010, toujours en licence Creative Commons. Bien sûr, on aime le libre ici à Divergence, by NC Andy 3.0. Et on va écouter le morceau qui est calé juste après et qui s'appelle Ambivalence.
I'm not afraid to
Ambivalence par Emerald Park, extrait de leur album For Tomorrow, édition 2010 en licence Creative Commons by NCND 3.0. Et puis maintenant, on aborde sur Divergence Numérique, 93.9 FM, Montpellier, divergence-fm.org pour ceux qui nous écoutent sur les paquets non filtrés encore de l'Internet, comme nos Belges ou nos Québécois qui sont maintenant en vacances. Et ben, on se retrouve maintenant pour la dernière partie et on accueille... Oui.
On va accueillir Pascal Arnoux.
Pascal Arnoux.
Bonjour.
Bonjour Pascal, ça fait plaisir de te revoir. Et ben, aujourd'hui, on va parler de la Mandriva Party, hein, qui va se passer sur Terran.
Donc oui, c'est à Terran samedi, là, samedi qui vient. De 9h à 17h toute la journée.
Donc, et elle... ceux qui nous écoutent en rediffusion ce samedi, c'est un peu trop tard.
Oui, c'est vrai.
Donc samedi 12 juin.
Donc samedi 12 juin, de 9h à 17h, à place du Ballon.
Voilà, c'est ça, la médiathèque de Terran qui n'a pas de nom, mais bon, médiathèque, hein, ça, c'est facile à trouver. Hein, c'est en haut de la colline, au centre-ville, près de la mairie. Et donc, l'install party va se diviser en deux parties. Le matin, nous avons traditionnellement l'habitude de faire ainsi. Le matin, une install party tout à fait classique. Donc, c'est des démonstrations. On installe à la volonté des gens qui viennent avec leur ordinateur. On installe les systèmes d'exploitation libres. Donc là, en l'occurrence, Mandriva, puisque Mandriva nous sponsorise sur l'événement. Mais également, il y aura de l'Ubuntu et puis d'autres.
Le livre est une grande famille,
oui,
forcément.
Il voilà. n'y a pas de souci.
Et donc ça, c'est la première partie de la journée. Le matin, installation. L'après-midi, c'est quoi ?
Donc l'après-midi, on va normalement, il est prévu quelques conférences par un Linux. Donc c'est un collègue là qui a un site et bon qui organise des aides à domicile sur les systèmes d'exploitation Linux. Donc ça, c'est parrain Linux.
Avec un système, vous êtes parrain de filleuls,
voilà.
C'est-à-dire de personnes qui viennent demander de l'aide. Si vous avez... ou des informations, et si vous avez donc la capacité, les compétences, vous inscrivez sur le site en disant voilà, je suis parrain de telle ou telle ville ou tel endroit, et comme ça des liens se créent entre différentes personnes qui peuvent apporter évidemment un échange de savoir, de dépannage.
Nous l'avions reçu lors d'une émission Divergence Numérique et nous en avions beaucoup parlé.
J'ai pas le lien, j'ai pas l'URL en tête, mais si vous voulez discuter avec lui, il est très abordable. Mm-hmm. Et vous venez à cette install party, vous pourrez discuter directement avec lui.
D'autres personnes qui seront présentes dans l'après-midi ?
Donc ensuite, Pierre-André, qui nous présentera son système de recherche assez révolutionnaire. C'est un gros travail, il n'est pas encore abouti et il est en plein chantier, c'est système de recherche, système expert. Donc ça, c'est pas mal aussi à écouter. Et puis après, normalement, on devrait parler un petit peu... donc Mathieu Beck, là, le responsable de la médiathèque de Terran, devrait nous faire quelques conférences sur Audacity et nous présenter la suite bureautique OpenOffice.
Je vois qu'il y a aussi, j'ai les informations sous les yeux, donc un bon nombre de partenaires. Donc ABAE, Expertise Logicielle, il y a bien sûr donc l'April, Divergence FM, nous y sommes, La Frule, Jup Info, Kawenga, Mandriva, les éditions Erol, Montpellier Agglomération, Montpellier Wireless, OpenOffice.org, Parrain Linux, Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, la ville de Montpellier, la ville de Terran. Ça fait quand même des gens qui soutiennent un événement comme ça.
Oui, qui nous soutiennent soit par des facilités d'accès, soit par des prêts de salle, soit par des subventions, ou soit récemment, j'ai reçu les confirmations par email tout à l'heure, donc des jeux avec des livres à gagner.
D'accord, donc c'est vrai que ça en fait des choses. Et j'aurais peut-être une petite question un peu plus particulière, moi, sur l'intérêt donc, d'une install party. Comment ça se passe ? Les gens, ils arrivent avec leur PC et tout ça, mais finalement, l'accueil, le suivi se passe comment ?
Alors en fait, le public est assez hétéroclite. Vous pouvez tomber sur des débutants complètement profanes en la matière, c'est-à-dire ils ne savent même pas ce que c'est un OS, un système Linux. Ils connaissent pas, ils viennent. Bon, ils ont entendu parler, ils savent que nous allons parler d'informatique, mais après, ils savent pas autre chose. Donc, nous leur expliquons, nous leur donnons des CD, nous leur montrons ce qu'on peut faire avec ces OS. Et puis, soit ils viennent avec leur machine et on installe directement avec leur autorisation, soit ils repartent avec les CD et puis ils essaient tranquillement chez eux. Bon, ça, c'est la première étape. La seconde étape, elle est nécessaire. Il faut un suivi avec des ateliers. Donc, c'est le cas à Téhéran. Il y a un atelier d'initiation au logiciel libre, mais aussi avec l'association Montpellier Libre à Kawanga et puis à la maison Frédéric Chopin, peut-être à Mélina Mercouri, on a des contacts. Donc là, c'est des suivis avec des ateliers. J'ai oublié aussi Castelnau. Et donc, les gens peuvent continuer à progresser, à venir avec leurs questions et tout ça, quoi.
Donc, c'est vrai que c'est bien, on arrive avec son ordinateur, oui, qui peut être vide ou plein, peu importe, et on peut repartir avec un certain nombre de logiciels libres, bien sûr, puisque c'est autour du libre, oui, donc gratuit, fonctionnel, bien sûr, pour une utilisation quotidienne. Mais bon, il y a aussi des initiations à différents types de logiciels comme Audacity, GIMP, Inkscape, OpenOffice. Donc, c'est vrai que l'avantage, c'est de pouvoir essayer ce genre de logiciel si jamais on n'a pas d'informations sur comment ça fonctionne, où on n'est pas très à l'aise avec l'outil, autant avoir des personnes qui sont disponibles. C'est pas forcément que le système d'exploitation, c'est le libre en général, bien
oui,
sûr.
Oui, voilà, c'est le libre en général, oui, on s'arrête pas qu'au système d'exploitation, bien sûr.
Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant.
Ce n'est que le prétexte, en fait, hein, l'install party, à mon avis. C'est pour fédérer un petit peu les utilisateurs autour du oui, libre, leur donner un esprit un petit peu ouvert à ce qu'ils peuvent avoir, partager, donc, comme on disait, hein, de l'information, venir pour voir d'autres choses, discuter avec des gens pour savoir comment ils font, partager des expériences. Mais donc, ça ne s'arrête pas qu'à l'install party. Hein, c'est bien ouvert. Et on l'a déjà vu sur la précédente édition qui était à la médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier Agglomération. Ouf.
Et donc, là, c'était une Ubuntu party.
C'était une Ubuntu party, ouais, mais on retrouvait des personnes qui étaient aussi sous d'autres systèmes. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas sectaire, en fait. Hein, le libre, c'est justement ouvert à tout, ouvert à tout.
Donc, ouais, pour clore un peu le sujet, je vais reprendre un peu le texte qui est décrit. Les live CD, le double boot, le partitionnement, tout ceci n'aura plus de secret pour vous. Vous pouvez également découvrir la clé USB bootable, oui, une clé USB qui permettra de démarrer votre ordinateur sur un système d'exploitation Linux, donc customisé, qui a été donc préparé par l'association spéciale dépannage PC. Les programmes des prochains rendez-vous de Montpellier Libre et de la médiathèque de Téhéran seront disponibles là-bas. Et n'oubliez pas, l'entrée est libre pour l'ensemble des animations.
Libre donc et gratuite.
Voilà, libre et gratuite, c'est ça le plus important. Alors je vous invite à tous, pour tous ceux qui sont intéressés, de passer sur le site web médiathèque de Téhéran ou Montpellier Libre. Le contact est disponible sur contact@montpellier-libre.fr. Et bien sûr, vous pouvez tout retrouver sur Facebook, sur Twitter, ou alors bien sûr toujours sur le site de montpellier-libre.fr. Je vous invite à tous vous renseigner. Encore une fois, merci Pascal de nous informer sur ce genre d'événement.
Merci à vous.
Et je pense que c'est un bon moment pour parler un petit peu d'un agenda du libre. Qu'est-ce que tu en penses ?
Bien sûr, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs de l'agenda du libre. Alors évidemment, vous l'aurez compris, ce samedi incontournable, si vous êtes dans la région de Montpellier, d'aller à Téhéran, qui se trouve un petit peu au nord, au-dessus de Castelnau d'ailleurs, où on capte très bien Divergence FM, même trop bien Divergence FM. Sinon, agendadulibre.org, où on peut voir que aussi à Mourbar, justement, j'aime bien le luxe 68, un petit coucou à nos Alsaciens, une install party également, sans oublier que lundi 14, c'est aussi...
Il y a les ateliers de Montpellier Libre.
De Montpellier Libre. À Castelnau-le-Lez, le 15, c'est les ateliers libres.
Voilà.
Ça fait beaucoup de choses, une install party.
Et qu'il y a aussi une install party à Lille, il y a beaucoup de choses. Rendez-vous aussi à Marseille pour des install parties Ubuntu Lucide. Il y a des install parties dans beaucoup d'endroits en France. Je vous invite à tous à passer sur le site www. agendadulibre.org.
Alors agendadulibre.org pour nos chers français, agendadulibre.qc.ca pour nos chers québécois et agendadulibre.be pour nos amis belges, peut-être les Suisses prendront le mouvement, l'Europe aussi, cher que les autres pays de notre communauté européenne et que agendadulibre.world.
Eh ben, cette divergence numérique arrive sur sa fin. Divergence numérique 78, c'est fini. Merci encore une fois, Pascal.
Merci à nos quatre mains de la technique. J'ai nommé Bruno et son acolyte. Merci à vous de nous écouter sur notre belle fréquence et en stéréo en plus. Merci donc à tous les auditeurs, merci de votre fidélité et puis on vous dit même heure, même endroit et à la semaine prochaine.
Et restez libre.
Et restez libre.
Terror States. Terrorist Networks. Terror States. Terrorists will acquire weapons of mass destruction. Terrorists will acquire weapons of mass destruction. Uh-oh. Terrorist networks.